Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie, la reine, l'émission d'information locale de Canal B s'apprête à commencer. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, près de 1000 élèves en situation de handicap sans accompagnant dans le département. Interview avec Camille, atteinte d'encéphalomyélite myalgique, une maladie en lutte pour sa reconnaissance. De la musique, dont une nouveauté, un reportage, le premier portrait d'une série consacrée aux habitants de Villejean. Et puis, recommandation, rencontre avec une poétesse. Bienvenue dans la reine. Et on commence avec l'info du jour que j'ai sélectionné pour vous. Près de 1000 élèves du département sont sans AESH, ces accompagnants d'élèves en situation de handicap. Alors tous les élèves en situation de handicap ne sont pas accompagnés. La MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, a délivré la notification nécessaire à 4055 des 5512 élèves en situation de handicap du territoire. Mais les accompagnants nécessaires, ils ne sont pas assez nombreux et 902 élèves, pour être précis, se retrouvent donc sans cette aide nécessaire. Il faut dire qu'à l'échelle de la région, cette fois, il y a deux fois plus d'élèves que d'accompagnants, même si ces derniers, il faut le dire, ne sont pas forcément à temps plein avec chaque enfant. Une mobilisation est prévue mardi prochain, mardi 3 octobre à midi devant le rectorat de Rennes. Rendez-vous à l'initiative d'une intersyndicale dans laquelle on retrouve les syndicats les plus connus, mais aussi ceux de l'enseignement agricole public et puis du privé, réunis pour dénoncer ensemble la précarité de cette profession. Des mesures ont été prises par le gouvernement, avec une nouvelle grille indiciaire, des indemnités de fonction et puis la promesse d'un CDI au bout de 3 ans de CDD. Mais ces annonces, eh bien, elles sont jugées insuffisantes par les syndicats. Et la fusion évoquée par le gouvernement, fusion du métier d'AESH avec celui d'assistant d'éducation en un seul nouveau métier, celui d'accompagnant à la réussite éducative, eh bien, cette fusion préoccupe la profession qui tient aux spécificités de ces métiers. Les revendications de l'intersyndicale, les voilà. La reconnaissance du métier avec un statut de fonctionnaire de catégorie B, de meilleure rémunération et aussi la fin des temps incomplets imposés avec des contrats précaires parfois sous les 24 heures par semaine. Voilà pour l'info du jour. Tout de suite, on poursuit avec l'interview du jour. Camille Prigent, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes rennaise, vous avez 28 ans et vous êtes atteinte d'encéphalomyélite myalgique, EM. Je vais sans doute le dire comme ça au cours de l'échange. On vous reçoit à quelques jours d'un rassemblement à Rennes pour rendre visible cette pathologie. Millions Missing France, c'est le nom d'une association qui se bat donc pour la reconnaissance de cette pathologie, qui a lancé une campagne du même nom en référence aux millions de patients oubliés car peu considérés. Vous êtes membre de cette association depuis peu. Pourquoi est-ce que vous l'avez rejointe, cet asso ?
Eh bien, je suis tombée malade, moi, en 2021, donc fin 2021, proche 2022. J'ai tout de suite cherché, en fait, une association au niveau national qui pourrait me renseigner et me donner des informations sur des symptômes, en fait, très handicapants que j'avais. Je les ai contactés et puis je n'ai jamais arrêté de les suivre. Et je suis devenue membre adhérente très, très rapidement au vu de tout ce qu'ils faisaient, des activités qu'ils mettaient en place, qui me semblait essentiel compte tenu de l'urgence sanitaire aujourd'hui.
Alors, l'encéphalomyélite myalgique, c'est une maladie qui touchait avant la crise sanitaire plus de 450 000 personnes en France, ce qui fait que ce n'est pas une maladie rare. Son nom peut-être le plus connu, mais je crois qu'on ne l'utilise plus aujourd'hui, c'est le syndrome de fatigue chronique. C'est en tout cas une maladie qui est classée par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, depuis 1969 comme un trouble, une maladie neurologique, une maladie qui se déclenche souvent après une infection qui peut être banale. le mieux c'est quand même de vous demander à vous comment est-ce que vous expliquez cette maladie à une personne qui vous le demande, un proche, quelqu'un que vous rencontrez.
Alors c'est assez complexe parce que cette maladie elle évolue sur un spectre très très large, elle est vraiment différente pour chaque personne. Toutes les malades qui en sont atteints de cette maladie ont vraiment des symptômes qui peuvent être très très variés et qui peuvent fluctuer de jour en jour. Et aussi ce qui est important de noter dans cette pathologie complexe, c'est que on n'est pas tous égaux dans nos états. Il y a vraiment des personnes qui seront en état un peu plus léger, alors je mets vraiment des parenthèses parce que quand on est en état léger atteint d'une encéphalomyélite myalgique, on perd 50% de notre capacité physique d'avant, donc c'est énorme, et ça va jusqu'à un état sévère, voire très sévère, de personnes qui sont alitées dans le noir, complètement voilà, allongées dans leur lit au quotidien.
Sont majoritairement des femmes qui sont touchées. Le syndrome numéro 1, c'est la fatigue. Il y en a peut-être d'autres derrière.
Exactement. Alors, il y a deux symptômes un peu cardinaux de la pathologie, comme ça que je pourrais l'expliquer d'ailleurs à mon entourage qui me demanderait comment est-ce qu'on peut être diagnostiqué, comment on peut savoir qu'on a cette pathologie. Il y a une asthénie très forte, donc c'est une fatigue extrême qui est extrêmement handicapante, qui dure pendant plusieurs mois et qui n'est pas résolue par le repos. Et le deuxième symptôme vraiment cardinal, super important, c'est le malaise post-effort. Alors dans notre jargon, on l'appelle le MPE en abréviation. C'est en fait une exacerbation vraiment de tous nos symptômes. Qui sont extrêmement variés, qui peuvent être aussi bien une atteinte cognitive, c'est-à-dire du brouillard cérébral, difficulté de se concentrer, physique, une difficulté de marcher, un épuisement considérable, vraiment des douleurs articulaires, musculaires. Il y en a vraiment énormément, il y a énormément de symptômes qui sont très variés, qui touchent plein d'organes. Et du coup, le malaise post-effort, c'est vraiment une exacerbation de nos symptômes suite à un effort considérable qui dépasse notre seuil d'énergie. Et ça, c'est vraiment le symptôme vraiment important pour avoir le diagnostic de cette pathologie.
La difficulté avec l'encéphalomyélite myalgique, c'est qu'il n'y a pas de marqueur biologique pour la diagnostiquer. Il y a donc des tableaux, mais il y en a plusieurs, des tableaux de critères qui peuvent varier d'un professionnel de santé à un autre et qui permettent d'être diagnostiqués. Comme il y a plusieurs tableaux, des fois, il peut y avoir un effet un peu d'errance médicale avec un diagnostic qui peut être un peu long à poser pour certains patients. Comment est-ce qu'il s'est passé votre diagnostic à vous ? Vous vous estimez un peu chanceuse ?
Oui, alors mon diagnostic à moi, il a été plutôt rapide. Il n'a duré que seulement aussi, voilà, entre guillemets, il n'a duré que une petite année, je dirais. Il s'est fait rapidement parce que j'ai contacté très vite, en fait, notamment Millions Missing France, qui m'a orienté vers un des seuls, alors pas spécialiste, un des seuls connaisseurs de l'encéphalomyélite myalgique en France qui est à Paris. Moi, il se trouve que j'habitais à Paris à l'époque, donc ça a été facile pour moi de prendre un rendez-vous et d'aller le voir, mais c'est super compliqué pour d'autres malades qui habitent aux quatre coins de la France, qui peuvent pas se déplacer. Et donc j'ai été diagnostiquée assez rapidement. Il se trouve que moi, on observe en fait via un tapis IRM, c'est vraiment une IRM poussée qui peut se faire que dans deux hôpitaux, il me semble, en France. Voilà, je m'avancerai pas trop, mais c'est un examen vraiment poussé. On observe en fait dans mon cerveau des hypométabolismes, des ralentissements en fait dans certaines zones du cerveau, ce qui montre que j'ai vraiment un souci au niveau de mon fonctionnement neurologique et de mon système immunitaire. Et donc voilà, ça me donne des symptômes d'épuisement intense, de difficultés cognitives, etc. Donc j'ai eu de la chance en fait de rencontrer des médecins qui tout de suite m'ont cru, parce que ça c'est pas évident aussi, il peut y avoir des années d'errance diagnostique, j'insiste, mais beaucoup de chance, et c'est pas le cas de la plupart des malades, des personnes atteintes.
Beaucoup de patients confient qu'on leur a souvent asséné des « c'est dans ta tête ».
Oui. Et surtout quand on est une jeune femme de 26 ans, quand on n'a pas de soucis de santé a priori avant et qu'on on a une vie active et qu'on tombe malade un peu comme ça du jour au lendemain, et bien c'est très compliqué de se faire entendre et d'être cru, malheureusement. Et il y a un gros souci au niveau du suivi et de l'accompagnement de cette pathologie en France qui n'est malheureusement pas encore très bien reconnue par le corps médical.
Vous, on vous a donné des éléments sur ce qui avait déclenché cette pathologie chez vous qui arrive vraiment du jour au lendemain ?
Oui, absolument. Alors moi, ça a été quand même un effet, en fait, boule de neige, où j'ai eu plusieurs chocs immunitaires dans une même année. Alors j'ai eu le Covid, et je suis tombée malade, j'ai eu des vaccinations, et tout ça, ça a été en fait une accumulation de chocs physiques que mon corps n'a pas supporté. Et avec un dernier choc physique en décembre 2021, ça s'est accumulé, je suis tombée malade du jour au lendemain. Et il s'avère aussi que l'infectiologue qui me suit a remarqué que j'avais une mononucléose assez virulente quand j'avais 7-8 ans, et qui serait restée en fait latente dans mon corps et qui aurait provoqué une fragilité. Donc vous voyez, c'est assez complexe.
L'encéphalomyélite myalgique, c'est une maladie qui est dite orpheline dans le sens où il n'y a pas de traitement aujourd'hui pour la guérir. C'est peut-être le moment de dire comment vous vivez aujourd'hui avec cette pathologie qui est handicapante dans votre quotidien. Ça a bouleversé en fait votre façon de vivre.
Oui, absolument. Les symptômes sont très nombreux et variés. Ça, c'est vraiment le cas pour tous les malades. Alors moi, je m'estime en état à peu près léger ou dans l'état un peu plus haut que la normale que les autres personnes atteintes d'encéphalomyélite myalgique, mais ça a quand même un impact considérable sur ma vie. J'ai dû arrêter de travailler, donc j'étais en temps plein. En 2021, je travaillais dans un cinéma en banlieue parisienne, en 40 heures, j'étais médiatrice jeune public auprès des jeunes, et j'ai dû arrêter très rapidement ce travail. Je ne peux plus travailler, je ne peux plus conduire à cause de mes symptômes, à cause de ma difficulté de concentration, de mon épuisement qui arrive très très vite. J'ai dû quitter ma colocation parce que je ne pouvais plus payer mon loyer, donc c'est aussi rapidement tomber dans une précarité financière quand du coup on a une maladie chronique qui dure, qui ne s'arrête pas. Malheureusement, on a beaucoup de mal à avoir des aides, à être reconnue, et j'ai dû rentrer chez mes parents sur Rennes. Voilà, il y a beaucoup de choses que je ne peux plus faire au quotidien. C'est très compliqué pour moi de me déplacer, de voyager, de conduire. C'est difficile de faire des courses, de me préparer des repas, difficile d'être en autonomie. Voilà, et je tiens aussi à dire que dans un état un peu plus sévère, il y a des personnes pour qui, par exemple, même se lever est hyper compliqué. Même manger, parfois, c'est difficile pour certaines personnes. Donc les symptômes peuvent être vraiment graves et handicapants pendant une période très très longue.
Il n'y a pas de traitement. Est-ce que vous avez quand même des choses qui vous soulagent ou des aménagements dans votre façon de vivre qui font que c'est plus supportable de vivre au quotidien avec cette encéphalomyélite myalgique ?
Et oui, malheureusement, il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement à ce jour. La recherche est en cours, mais avance bien trop lentement. Malheureusement, c'est ce pourquoi aussi nous organisons une mobilisation samedi prochain avec Millions Missing France. Il y a en fait une stratégie thérapeutique qui s'appelle le pacing, c'est PACING. C'est vraiment le fait, en fait, d'adapter ses activités au quotidien, de rester dans sa zone d'énergie. Donc c'est assez difficile au départ parce que on teste en fait nos activités, notre énergie en fonction de ce qu'on fait dans la journée. Et c'est vraiment rester dans ce seuil d'énergie, de ne pas dépasser, pour petit à petit arriver à comprendre comment notre corps fonctionne, ne surtout pas s'aggraver, parce que par exemple il y a en fait des programmes de rééducation à l'effort, notamment auprès de Covid long. Alors ce sont vraiment deux symptômes de pathologie qui sont, on va dire, différentes, mais beaucoup de Covid long, en fait, déclenchent une encéphalomyélite myalgique, et il y a beaucoup de programmes de réadaptation à l'effort, et ce qui est très néfaste pour des personnes atteintes d'encéphalomyélite myalgique, parce que ça peut les empirer. Alors ça marche très bien pour plein d'autres pathologies, et c'est un super programme et moyen de s'améliorer, mais c'est vrai que quand on a des malaises post-effort et quand on force, ça peut être dramatique et ça peut faire aggraver en fait la maladie. Donc voilà, ça c'est surtout à faire très 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 attention. Les médecins, ils ne sont pas forcément formés, donc c'est ça aussi qu'on demande, c'est vraiment une formation auprès des médecins, des personnels de santé qui ne connaissent pas très bien cette pathologie.
Est-ce que dans cette nouvelle vie, là, depuis votre diagnostic, on imagine un fonctionnement un peu au ralenti par rapport au rythme que vous aviez avant de souffrir de cette pathologie ? Vous le disiez, vous travailliez à 40 heures, vous faisiez plein de choses, etc. Est-ce que vous parvenez à trouver des choses qui continuent à vous nourrir et puis aussi à garder le moral au quotidien ?
Oui, alors c'est une bonne question. C'était vrai que le choc a été rude pour moi et pour ma famille, pour mes proches. Donc ça a été dur parce que je suis quand même tombée malade de manière très handicapante et ça ne s'est pas amélioré, ça s'est stabilisé. Donc en fait, j'ai appris à vivre avec, à faire avec. La première année a été très très rude, ça a été une année d'adaptation totale dans ma vie et j'ai mis en place plein de petites choses pour permettre de vivre mieux ma diminution d'énergie et mes diminutions de capacité. Et puis, voilà, petit à petit, j'ai accepté, en fait. Et maintenant, je vais mieux. Pas physiquement, mais on va dire moralement, ça va mieux. Et puis, je suis en cours de rédaction d'un dossier, en fait, pour la MDPH, pour avoir des aides sur le long terme. Parce que ben, c'est une maladie chronique qui va durer, qui ne va pas guérir tout de suite. Donc, pouvoir espérer toucher à des aides... financière et avoir une adaptation de temps de travail, une RQTH, voilà, des termes un peu complexes.
La MDPH, c'est la maison départementale des personnes handicapées qui dépend donc du département ici d'Ille-et-Vilaine. Et juste pour finir sur ma question, ouais, est-ce qu'il y a des pratiques ou une passion ou quelque chose qui vous habite et que vous pouvez continuer à faire même avec cette pathologie qui vous procure du bien-être au quotidien?
Oui, alors c'est toujours difficile, mais je fais un peu de musique depuis petite. C'est vrai que j'ai de la chance, ça me demande pas trop d'énergie de prendre mon instrument et d'en faire. Mais voilà, c'est sur un temps vraiment limité, avec des périodes de repos après.
Vous jouez de quel instrument?
De l'accordéon diatonique, depuis petite. Voilà, après, il y a d'autres activités manuelles que je peux faire, et la lecture, par exemple, ça je peux le faire, regarder des films. Heureusement, ça me remonte un peu le moral.
Vous avez dit un mot sur le lien entre Covid long et encéphalomyélite myalgique. Donc cette pathologie, le M, elle est majoritairement déclenchée par un virus. Et ce qui se passe depuis la crise sanitaire, c'est que les malades du Covid long sont nombreux à déclarer une encéphalomyélite myalgique. L'association Millions Missing France, elle anticipe une augmentation importante du nombre de patients atteints. Il y a plusieurs études. Selon les études, c'est entre 40 et 59% des Covid longs qui déclarent donc une encéphalomyélite. L'association dont vous êtes membre, Millions Missing France, alors déjà elle le dit, il y a de l'espoir car des chercheurs donc Covid long et encéphalomyélite coopèrent. Et puis plusieurs revendications de la part de cette association, une meilleure prise en charge des malades qui sont donc de plus en plus nombreux, la formation du corps médical pour éviter des phénomènes d'errance médicale et plus de moyens pour la recherche. C'est peut-être là qu'on peut dire un mot justement sur l'impact financier d'une telle maladie pour le patient. C'est là où parfois il faut un peu batailler pour faire reconnaître sa pathologie comme une affection longue durée. C'est votre combat aussi à vous?
Oui, absolument. C'est complexe en fait de faire entendre cette pathologie et d'avoir des aides administratives, des aides financières. Donc c'est aussi pour ça que l'association est là. C'est pour vraiment tenter d'accompagner au mieux les malades dans leur suivi, dans leurs soins. Et c'est de pouvoir aussi sensibiliser voilà, toute personne intéressée du milieu médical à cette pathologie et pour vraiment avoir une meilleure prise en charge de cette maladie, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué, c'est des arrêts de travail ou des arrêts maladie à répétition mais qui sont arrêtés au bout d'un moment, c'est des refus en fait d'ALD parce que la pathologie n'est pas en fait dans la liste des maladies
reconnues.
Et puis il est compliqué aussi de se faire reconnaître auprès de la MDPH parce que voilà, c'est en fait une pathologie qui n'entre en fait pas vraiment dans les cadres médicaux.
Ce qu'il vous faudrait, c'est une reconnaissance en invalidité pour éviter l'enchaînement des arrêts maladie.
Oui, c'est ça, c'est une reconnaissance en invalidité pour certaines personnes. C'est vraiment une adaptation de temps de travail, une RQTH pour des personnes qui ont des difficultés de travailler à temps plein. C'est parfois des reconversions aussi pour des personnes qui seraient en capacité de travailler, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est des aides financières comme l'allocation adulte handicapé, des reconnaissances pour les personnes proches qui aident et qui vraiment traversent aussi des moments difficiles, qui aident leurs enfants, leurs proches, leurs parents, leurs conjoints dans l'accompagnement de cette pathologie, parce qu'il y a une perte d'autonomie qui peut être très dramatique et terrible. Voilà.
Samedi 30 septembre, un rassemblement est donc organisé par l'association Millions Missing France. Rendez-vous à 14h30, place Hoche à Rennes. On vous y retrouvera, Camille, avec d'autres, a priori tous vêtus de rouge, pour sensibiliser sur cette maladie et puis aussi partager vos combats. Ça va ressembler à quoi, ce rassemblement?
Alors oui, c'est une très bonne question. Il y aura des malades qui peuvent être présents, donc de Rennes, de Bretagne, d'Angers. Il y a même des malades qui viennent de la région parisienne. Il y aura des prises de parole, des discours, des rencontres, des échanges. Évidemment, il y aura les proches et sympathisants de ces personnes. Et surtout, vraiment action forte en fait de ce mouvement et de cette mobilisation, il y aura une 150 paires de chaussures vides qui seront mises sur la place et qui représenteront en fait les personnes, les malades qui ne peuvent pas se déplacer. Et ça, c'est vraiment très reconnaissable en fait du mouvement international qui a été lancé en 2016, qui a été créé par deux Américaines aux États-Unis, qui ont commencé par mettre des chaussures vides en fait sur des places, et le mouvement petit à petit s'est étendu dans plusieurs pays, et en France il est devenu Millions Missing France. Et donc c'est un acte fort pour représenter les personnes qui ne peuvent pas se lever, qui ne peuvent pas être là. Millions Missing, c'est les millions d'oubliés, c'est aussi les millions qui nous manqueraient pour financer la recherche pour aider à l'encéphalomyalgique.
Et dernière question, un peu plus personnellement pour vous, c'est un peu la première fois là que vous allez à un rassemblement à la rencontre d'autres patients qui souffrent de la même maladie que vous?
Oui, absolument, donc ça va être un moment fort d'échange, de rencontres, et ça va être fort aussi de pouvoir se mobiliser dans l'espace public. C'est la première fois que je fais ça, c'est un moment qui va être symbolique et fort pour moi de communiquer et de enfin sur cette pathologie qui me touche.
Je vous représente Camille Prigent, vous êtes rennaise, vous avez 28 ans et êtes atteinte d'encéphalomyélite myalgique. On vous a donc reçu à quelques jours de ce rassemblement organisé à Rennes samedi à partir de 14h30 sur la place Hoche, un moment pour rendre visible cette maladie encore peu considérée. Pour plus d'informations, il y a le site internet millionsmissing.fr. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable y fuerte desde la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Soledad Bravo et son morceau Hasta Siempre sur Canal B, un titre à retrouver sur un album Soledad qui est sorti en 1968. C'est en fait une reprise d'un morceau à l'origine du Cubain Carlos Puebla, sorti quelques années auparavant. Et c'était la sélection musicale de l'invité qu'on vient de quitter, Camille Prigent, atteinte d'encéphalomyélite myalgique. Vous êtes en train d'écouter La Reine, c'est l'émission d'information locale de Canal B. Donc soit vous êtes branché sur le 94.0, peut-être êtes-vous en train de nous écouter en ligne sur canalb.fr ou peut-être aussi depuis le printemps via le DAB+, la radio numérique terrestre. On poursuit avec le reportage du jour. Et ce reportage, c'est le premier épisode d'une série que je vais proposer tout au long de cette saison radiophonique, des portraits d'habitants du quartier Villejean, un quartier où moi je ne fais que passer le matin pour venir en studio à Canal B, et quartier dont le point central est sans doute cette dalle Kennedy. Alors ce quartier, il est aujourd'hui étiqueté QPV pour quartier prioritaire de la ville. Il s'est construit à partir du début des années 60 et compte aujourd'hui plus de 20 000 habitants. Je vous propose donc de rencontrer plusieurs d'entre eux tout au long de l'année. Et si vous m'entendez et que vous habitez Villejean, que vous soyez étudiant, commerçant, retraité, bénévole dans une association, adolescent peut-être, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de raconter au micro votre Villejean à vous.
Bonjour Régine.
Ça va ?
Je suis en retard.
Oui, t'es en retard.
Bon, bah, pas plus.
Cette série de portraits part d'un constat, la faible place accordée en radio aux habitants des quartiers populaires. Alors toute l'année, je vous propose de les écouter. Épisode 1 avec Régine.
Ce côté-là est très peu connu hein, du reste du quartier. Moi, j'ai dit aux gens de arrêter de focaliser sur la dalle. C'est un super quartier.
On peut dire ce qui est écrit sur la porte ?
Oui. Bienvenue chez nous, maison de paix, pour des raisons de santé d'enfant. Enlevez vos chaussures avant d'entrer. Merci de votre compréhension. Chut ! Faune sauvage africaine. Voilà, entrez. Alors, comment je me présente à quelqu'un que je rencontre ? Je me présente Régine Komokoli. C'est très important pour moi, mon nom de famille. Je suis maman de trois filles que j'élève toute seule. J'habite à Villejean. Je suis styliste aussi, donc ça explique un peu ma manière d'être. Et puis, une métisse. Voilà. L'Afrique, l'Europe, bah, ça fait partie de moi désormais.
Est-ce qu'on dit votre âge ?
Oui, 41 ans.
Peut-être commencer par dire que ça fait longtemps que vous vivez dans le quartier Villejean ?
Je suis arrivée à Rennes, en fait, en 2001. Et j'ai mis les pieds tout de suite à Vigan, puisque c'était le lieu dans le temps où on se retrouvait avec des personnes d'origine africaine. Il n'y en avait pas autant comme aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte. Donc on peut dire que ça fait plus de 20 ans maintenant que je traîne dans ce quartier. Et puis en fait, j'ai tellement traîné, tellement souhaité que finalement, je vais vraiment finir ma vie là, puisque aujourd'hui, je suis propriétaire dans un projet d'habitat participatif à Villejean.
Un projet qui est assez novateur, puisqu'en tout cas, c'est le premier habitat partagé dans un quartier populaire pour le département de l'Ille-et-Vilaine. On se retrouve, c'est encore en cours de travaux, d'aménagement, mais normalement, à l'automne, vous serez combien ici ?
On serait 14 familles, donc un premier dans un quartier populaire. Voilà, c'est très important de le rappeler, puisque je sais qu'il y en a 6 ou 7 en France. Et puis un projet très attendu, puisqu'on est resté plus de 1000 nuits sans logement, moi et mes filles. Donc enfin, on est chez nous. Et les autres vont arriver fin octobre. Donc on a hâte pour pouvoir vivre la vie en communauté, si je peux dire ça comme ça.
Avec notamment une partie de l'immeuble qui est partagée, un local vélo, une chambre d'amis, aussi pour faire du bricolage, je crois.
C'est ça.
Pourquoi est-ce que vous, cette dimension partagée, elle vous tenait à cœur ?
Parce que moi, je trouve que c'est un projet écologique et solidaire parce que je suis maman solo. Et il y en a de plus en plus dans les familles monoparentales parce que je n'ai pas de famille. Il fallait que je trouve une solution pour mes enfants. Et sur la question de la garde d'enfants, parce que j'ai quand même une vie très remplie aujourd'hui. Mais aussi pour apporter autre chose parce que je suis d'origine centrafricaine. Et j'ai une culture qui n'est pas une culture à la française. Donc, il manque des choses, des codes, je dirais exactement. Et je suis persuadée que pour donner cette chance aussi à mes enfants de cette diversité, il fallait aussi vivre avec des personnes qui sont d'ici, d'origine française. Et donc, tout ce mélange fait que ça apporte beaucoup à mes enfants. Donc, je voulais ça. Et puis d'ailleurs, la première fois qu'on m'a présenté le projet, j'ai dit, mais je connaissais, puisque chez nous, on appelle ça la cour commune. On a des maisons et puis on a une grande cour et on partage tout. Donc, écologiquement, je me retrouve aussi. Économiquement, je me retrouve aussi. Donc, c'est très bénéfique pour moi. Oh, trop de bazar. Oui, bon, que je rentre pas. Ta soeur, elle est là, Adar ? Oui, il y a deux chambres.
Bonjour, je vous embête pas très longtemps.
Et là, c'est une autre terrasse. C'est une belle vue avec un super coucher de soleil. Après, il y a la rocade aussi, mais moi j'adore. Il y a un côté parisien. J'ai toujours été fan. Et puis, j'ai la vue sur la dalle. Et les soirs, c'est hyper intéressant de voir toute la vie, les gens qui éteignent, qui allument. Je ne suis pas objective, c'est mon quartier, j'adore.
Vous êtes arrivée, vous aviez 19 ans en France, vous venez de le dire, vous venez de République centrafricaine, vous avez donc eu un parcours d'exil, et puis vous le racontez aux journalistes, un parcours assez douloureux, puisque vous avez vécu à la rue, vous avez connu l'exploitation sexuelle, les violences conjugales. De quelle façon vous avez réussi à vous extraire de ces expériences douloureuses ? Et vous dites, vous avez un esprit assez combatif, d'où il vient cet esprit combatif ?
J'ai fini par me dire aujourd'hui que je suis en mission parce que oui, j'ai une vie très compliquée, très tôt en Centrafrique. Une jeune fille en Centrafrique, c'est très très compliqué. C'est un pays qui est régulièrement en guerre. J'ai toujours connu cela. J'ai eu très peu de chance même aussi pour aller à l'école puisque moi, je n'ai pas fait des études. J'ai appris tout ici. Mon premier livre que j'ai terminé, c'était pendant le confinement. C'était Mon merveilleux malheur de Boris Cyrulnik. Et depuis, j'arrête pas. Il n'y a pas une journée qui se passe où je ne lis pas. Donc, j'ai appris le français ici. J'ai pris des cours de français. Donc, pour moi, venir ici, c'était une chance, mais c'était aussi un malheur puisque je savais, j'étais en mission, on m'a envoyé, ma famille m'a mis sur la route de l'exil pour aussi sauver les autres qui sont restés. C'est comme ça. Ça choque, mais nous, quand on est là-bas, on est élevé. J'étais une fille préparée à aider les autres à sortir de la misère. Donc, j'étais préparée. Mais une fois sur place ici, on n'a plus personne. Et donc, oui, j'ai connu des vies très difficiles. Je le dis maintenant. Ça y est, c'était aussi un thérapie pour moi de dire que oui, je n'ai pas de honte à avoir puisque ce n'était pas ma faute d'avoir été mise en prostitution. Et c'est aussi pour ça que je témoigne, pour qu'on arrête aussi et qu'on surveille cela. Les jeunes filles qui arrivent, qu'est-ce qu'elles deviennent ? Mais en même temps, il y a ce côté, malgré tout ce voyage, depuis l'Afrique jusqu'ici, il y avait un objectif, il y avait un mot qui sonnait dans ma tête, tu dois rester en vie. Je n'avais pas le droit de mourir. Les autres sont morts. Moi, mes proches, ma famille, j'en ai plus beaucoup, sont morts. Et je suis en vie. Je ne dis pas que j'ai la chance d'être en vie, mais j'ai dit que je suis en vie, je n'ai pas le droit de mourir parce qu'il y a une mission à accomplir.
Et une mission, on va le comprendre, qui est surtout axée autour de la lutte contre les violences faites aux femmes et pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce qui est assez fou, c'est que vous n'aviez pas encore de logement fixe quand vous êtes entrée dans le milieu politique en rencontrant Europe Écologie Les Verts, que vous avez depuis quitté, mais ça a commencé comme ça. En 2021, vous êtes devenue conseillère départementale, vous avez la casquette parentalité et petite enfance. Est-ce que le sentiment de légitimité, vous l'aviez tout de suite?
Moi, c'est naturel parce que je considère que je suis au service et je suis très honorée parce que je sais qu'aujourd'hui, les relations entre les citoyens et les élus, c'est très compliqué, ce qui n'est pas mon éducation. Il faut comprendre aussi que je viens de la République centrafricaine, je suis restée 20 ans, je suis devenue citoyenne française, en tout cas naturalisée il y a à peine 7 ans. Et c'est toujours une curiosité pour moi de voir cette contradiction, alors que d'où je viens, les élus sont très importants, ça, on les choisit pour nous représenter, donc on respecte. Et moi, j'étais très honorée d'être élue. Et puis parce que aussi je sais que j'ai un apport. La violence faite aux femmes, c'est un sujet et je le porte avec détermination. Et des fois, je sais que c'est incompréhensible, mais j'ai pas le choix. Il faut bien qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui rentre dedans parce que les femmes meurent tous les jours et c'est plus possible. Mais il y a aussi le côté représentation. Je suis une femme noire, africaine aussi. Donc il y a toute la côté diversité, l'immigration, tout. Et donc c'est très difficile. Je porte beaucoup de choses. Et puis bon, les 1000 nuits que je suis passée en logement provisoire, quand je vois aujourd'hui l'apport que j'ai en témoignage et des solutions, je me dis, en fait, fallait que je passe par là pour comprendre des situations. Et donc, moi, je le témoigne et sans filtre, hein, parce que des fois, les moyens sont là aussi, mais on ne l'oriente pas au bon endroit, ou bien les moyens ne sont pas assez aussi. C'est comment aussi, en tant que pouvoir public, on va mettre les moyens là pour que les choses avancent.
Juste pour préciser, le département donc pour lequel vous êtes élue comme conseillère départementale, il pilote sur ces sujets de parentalité et de petite enfance, il pilote la PMI, protection maternelle infantile, gère aussi tout ce qui est lié aux assistantes maternelles dans le département et fournit aussi des services de suivi de grossesse, notamment pour les femmes en situation de précarité. On arrive à votre engagement associatif. Vous l'avez dit, vous êtes mère de 3 filles et vous êtes donc engagée dans le mouvement féministe avec un collectif que vous avez lancé qui s'appelle Kuné. C'est de l'espéranto, c'est ça ?
C'est ça.
Donc il y a ce collectif et là, en ce moment, vous avez lancé avec d'autres un réseau qui s'appelle Clandestine qui va être actif à partir de l'automne. Le combat commun, c'est d'écouter les femmes qui sont victimes de violences conjugales et qui échappent peut-être au système administratif, judiciaire, classique, on va dire.
C'est ça. Je suis en joie quand j'en parle parce que c'est une réussite, hein, ce collectif qu'on a créé avec Fatima. À l'origine, il y avait 3 choses. C'était changer l'image du quartier, valoriser les femmes et aussi qu'on puisse être respectées. Et ça fonctionnait. On a tenu parole en 3 ans. On ne voulait pas s'enfermer dans les cases parce qu'il y avait aussi ce combat de on est trop dans les cases, les femmes du quartier sont des assistées, sont où les mères et tout ça. Donc on voulait vraiment montrer ce qu'on était capable de faire. Malheureusement, il y a eu un féminicide aussi dernièrement. Hein, c'était la mort de Marie. Ça nous a bouleversés. On est toujours sous le choc. Et puis, c'est qu'est-ce qu'on allait faire? Et tout de suite, en fait, on n'a pas eu le temps de réfléchir puisqu'on a eu des femmes qui sont venues nous voir. On était identifiées grâce à la presse et qui sont venues témoigner.
Alors, témoigner de violences conjugales.
Et là, on ne pouvait plus porter parce qu'on n'était pas assez formés, on n'était pas outillés. Donc, on a dit, bon, on va se former à l'écoute bienveillante déjà pour comment accueillir ou pas. C'est ce qu'on a fait. Et puis aussi, comment se former, il fallait financer aussi la formation. Et l'idée de passer par le fonds participatif, c'était important pour que les gens puissent s'approprier le sujet. On a eu 2000 euros, mais au-delà de 2000 euros, on a eu des personnes qui sont venues en disant « Nous, ça nous intéresse, ce combat, on veut en parler, on veut participer et vivre autre chose. » Donc, on a pu se former. On est 9 à être formés aujourd'hui, on est opérationnel. Et quand on a parlé de ça au public, en fait, il y a eu d'autres propositions en disant, mais s'identifier bouche à oreille, ça suffit pas. Nous, on veut s'identifier clairement, c'est-à-dire que ceux qui se sentent capables, des militants, des femmes, en disant, moi, je suis clandestine, qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, l'idée de faire un petit badge, pins, donc on est en train de travailler, il y a un groupe de travail qui s'est monté. Si une femme se dit, ah tiens, si je vois une personne avec ce badge, ça veut dire cette personne est au courant, si je vais le voir, et cette personne va m'orienter vers les clandestines. Donc, première rencontre, on rencontre la femme, on l'écoute, sans jugement. Et après, on demande qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'elle veut qu'on aille plus loin? On va plus loin. Si elle n'est pas prête, ce n'est pas grave. Mais par contre, on ne la lâche pas. On lui dit, à Kouné, on fait autre chose aussi. Puis il y a des temps de repas des chefs solidaires. On a fait une randonnée à Dinard. Là, on nous a proposé tout à l'heure de faire de l'art martiaux pour se protéger, protéger les enfants. Je trouve ça génial. Et de dire à la personne, tu as le choix. Et puis toi aussi, tu as des compétences. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Et du coup, ça nous de nous débrouiller pour créer tout l'environnement, créer une dynamique. Pour aussi aider la personne, parce que derrière tout ça, il y a aussi question de l'estime de soi. Et ça, c'est un autre combat. Et puis, si la personne veut passer à l'étape suivante, ben, on a les contacts, il y a la police, il y a des associations qui accompagnent dans ce sens.
Je vous suis.
À bientôt.
C'était un événement sur le sport, non?
Oui, c'est art martiaux et emploi. Moi, je trouve que c'était chouette qu'ils puissent organiser ça comme ça sur la dalle aussi. Ça emmène du monde et puis ça crée des événements et puis ça change aussi l'image.
On arrive à ce quartier, Villejean, où on se retrouve sur le chemin pour venir ici. Vous aviez expliqué que c'était un peu dommage de résumer le quartier Villejean à Saad El Khedeni, qui est sans doute un peu l'axe le plus visible parce qu'il y a la station de métro et que c'est par cet axe-là qu'on traverse le quartier Villejean. Comment vous décririez votre quartier Villejean?
Aujourd'hui, maintenant, j'ai deux signatures. Foi de Régine, Villejean, c'est incroyable. Donc, pour vous dire, voilà. Un ami m'a dit il y a quelques jours, en me disant, quand je te suis sur Facebook, je n'ai jamais été à Villejean, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est un lieu à visiter. On devait mettre ça dans les agendas du tourisme. Moi, c'est un quartier qui m'a tout donné. Quand je suis arrivée, c'était là où je venais trouver les gens qui me ressemblaient. C'était important pour moi pour me construire. Et puis les gens sont incroyables. Évidemment, les gens sont, ben, ils vivent là, ils n'ont pas choisi. Hein. Il y a des bétons, on ne va pas se cacher non plus. Il y a tout un aménagement de territoire à réfléchir dans ce sens. Mais c'est des gens pleins de volonté, pleins de créativité. On a la chance, on a l'université en face. Et on a plus de 50 nationalités, ce n'est pas rien, d'Afrique. Donc ça ne peut qu'amener que du bon. Après, c'est une réputation. Moi, tout ce que je peux dire aux gens, venez voir. C'est un quartier incroyable.
Est-ce qu'il y a un lieu dans lequel vous, peut-être vous passez beaucoup de temps en particulier et que vous souhaiteriez présenter?
La maison de quartier de Villejean. C'était un lieu où je passe beaucoup de temps. Je fais aussi mes permanences, une fois par mois. C'est une maison qui fait confiance quand ils remettent les clés. Et ça, c'est important pour des personnes qui vivent dans un quartier comme ça, qui sont régulièrement stigmatisées, qu'on ne leur fait pas confiance. Et la question de la confiance est hyper importante. Donc oui, la maison de quartier, c'est vraiment un lieu qui est aussi stratégique puisqu'elle est en face du marché, du Saint-Luc, son table de scène. Enfin, c'est au centre, c'est au cœur. Il y a la maison de retraite aussi. Et c'est un lieu où vraiment il y a l'intergénérationnel puisqu'on ça va des anciens et des enfants et de toutes les nationalités. On le sait. Donc toute personne qui arrive là se retrouve comme si c'était chez elle.
Et une personne que vous croisez régulièrement et que vous avez plaisir à rencontrer dans le quartier Villejean?
Fatima. C'est notre chef cuisine dans le collectif Kouné. C'est une personne que j'admire énormément, pleine de bonne volonté. Et puis aussi, il y a ce binôme que j'adore. Elle est musulmane, moi je suis chrétienne. Hein. Pour nous, la religion est importante, a une place énorme puisque c'est notre construction aussi. Mais qui est capable de faire 150 repas pour tous les habitants. Et ça, c'est l'exemple même vraiment de la vie dans ce quartier.
Est-ce qu'il y a un plat qu'elle cuisine et que vous aimez particulièrement?
J'aime bien le yassa. C'est du poulet avec une sauce à la base de l'arachide. Et plein d'oignons aussi.
Alors, le quartier, il est un peu tiraillé entre l'image renvoyée par beaucoup de médias qui se concentrent uniquement sur des faits divers et la violence du quartier. Donc, tiraillé entre cette image-là et aussi quand même, ce qui revient souvent, la dynamique associative, le fait qu'il y ait une vie étudiante riche avec l'université Rennes 2 qui est implantée sur ce quartier-là. On peut quand même dire que c'est un quartier qui concentre d'une certaine façon des situations de précarité, des inégalités sociales aussi, qui peuvent parfois être source de violence. De quoi a besoin ce quartier? De quoi ont besoin ses habitants?
Moi, je dirais avec tout ce que vous avez cité, je ne dirais même pas le mot violence. Je dis que les gens s'expriment pour dire qu'on veut un changement. On veut être écouté, on veut être regardé. Je parlais des grands ensembles, on a un vrai problème. On parle de l'écologie en ce moment. Il y a l'inflation, les factures d'électricité. On sait qu'il y a beaucoup de parcs qui ne sont pas isolés. Et ça, c'est des vrais passoires thermiques. On a des factures énormes. Et là, c'est plus possible puisque du coup, l'argent va aller plus dans les factures d'électricité plutôt que de partir en vacances. Hein, beaucoup d'enfants ne partent pas en vacances et ça, c'est un vrai souci. De quoi ce quartier aurait besoin, c'est d'être repensé autrement avec les habitants, d'être reconsidéré, d'avoir beaucoup de confiance et de mettre des vrais moyens aussi, parce que je sais qu'il existe aussi la politique de la ville, avec le contrat de ville, de mettre les moyens vers les familles. C'est-à-dire que s'il faut faire des porte-à-porte, moi je pense que c'est important, mais c'est aussi l'élu aux parentalités qui parle, puisqu'on est vraiment, je crois que 25% des familles sont familles monoparentales. Et ça, c'est un vrai souci. Donc comment on les accompagne? Aussi la question de la langue, moi j'ai entendu, c'est beaucoup de primo-arrivants, des familles allophones, donc c'est comment on accompagne vraiment sur tout cet apprentissage, je dirais de la coéducation, mais pour changer les choses il faut aller vers les gens.
J'aimerais bien que vous choisissiez un morceau de musique qui est important pour vous et que je peux diffuser à la fin.
Aya Nakamura, le Oh Dada. C'est un peu, je suis déterminée, il n'y a pas moyen, j'irai jusqu'au bout, donc c'est pas la peine de m'arrêter. Oh Dada, y'a pas moyen Dada. Je suis pas ta cata, ja, ja, ja. En cas t'y en a baby, tu l'aides ça. Oh, ja, ja. Y'a pas moyen, ja, ja. Je suis pas ta cata, ja, ja, ja. En cas t'y en a baby, tu l'aides ça.
épisode sur Canal B, c'était le titre I'm Coming Home to You, interprété par Stella Angelico et les Cooking on Three Burners, une nouveauté musicale qui a été choisie par Yann, notre programmateur musical ici à la radio. Il s'agit d'un single sorti le 25 août dernier chez Soul Messing Records. C'est le label de ce groupe, Cooking on Three Burners, un trio soul et jazz australien formé à la fin des années 90. Vous êtes toujours dans l'émission d'information locale, ne vous inquiétez pas. Avant de se quitter, on termine toujours avec une ou des recommandations. Aujourd'hui, on annonce une rencontre poésie en compagnie d'Aurélie Olivier. Ça se passe vendredi 29 septembre à 17h30 à la bibliothèque des Champs Libres à Rennes. C'est gratuit. Aurélie Olivier, elle a publié son premier recueil de poésie au printemps. Ça s'appelle « Mon corps de ferme », publié aux éditions du Commun. Un uppercut poétique qui explore son enfance rurale dans les Côtes d'Armor à l'ère de l'agroalimentaire. Vendredi, une lecture performance sera proposée par l'autrice avec un temps de discussion à l'issue de cette performance. Pour plus d'infos, il y a le site leschampslibres.fr et je vous laisse avec un extrait de cet ouvrage « Mon corps de ferme » lu par Aurélie Olivier au printemps.
Au tout début des années 50, un géographe français, Gad Ducoin, déplore le déficit de modernisation et la mentalité paysanne. Il tire les cartes, puis il écrit « Il faut faire aimer l'argent aux paysans ». Entre 55 et 75, lui et ses camarades défendent le remembrement, une opération foncière qui permet de rassembler des parcelles pour faciliter la motorisation de l'agriculture. Les prés deviennent carrés.
C'est terminé, une émission d'info locale qui se veut réflexive et combative à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast et pour, pourquoi pas, s'abonner à la newsletter Le Courrier de la Reine, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus, salut.